Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bonjour tous ceux qui se définissent autrement. On est aujourd'hui vendredi le 9 décembre, et je suis tellement heureux d'être assis en cabine aujourd'hui avec vous au lieu d'être au téléphone à la maison comme la semaine dernière. C'est un changement. Il y a des petits bonheurs dans la vie qui ça vaut la peine d'en parler. Bonjour Francine.
Bonjour Yvan. Pour moi, c'est pas un petit bonheur, c'est un gros bonheur. Premièrement, parce que je suis contente de vous retrouver en studio.
J'essaie de...
Disons que la semaine dernière, on a fait de la haute voltige.
C'était autre chose, hein? Et notre maître d'œuvre pour ça, c'était Mathieu. Bonjour Mathieu.
Je vois pas de quoi vous parler. Ça s'est très bien passé la semaine dernière.
Moi, de mon point de vue, j'ai juste perdu... J'ai perdu le signal à un moment donné.
On a patiné de notre côté, ouais, Francine
moi,
et moi.
Je parlais tout seul, je pensais que je disais des choses bien intéressantes pour réaliser qu'il n'y a personne qui m'entendait.
Mais en fait, c'était de la censure, mais on ne voulait pas te le dire.
Puis on était en communication, vous et moi, mon cher Yvan, visuellement, oui. Mais je vous faisais des grands signes, il n'y a rien, ça ne donnait absolument rien.
Oui, alors un jour, il y aura les bloopers des émissions, puis on sera dedans, vous verrez ça.
Tant mieux si ça n'a pas trop paru de votre côté, chers auditeurs.
On espère énormément. Mais aujourd'hui, ça va être une journée plus... une émission plus régulière, si on veut. Et j'ai très hâte, vous allez voir pourquoi tantôt, quand on va vous dire quels sont les faits saillants de l'émission à venir. Mais avant ça, Francine, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine?
Évidemment que je vais commencer par vous parler du 6 décembre, brièvement, parce que... J'étais triste cette journée-là et un peu découragée, comme beaucoup de femmes, qu'après 33 ans, quand on commémore ce triste événement, je fais référence à la tuerie de Polytechnique, où 14 femmes ont été tuées, mais combien ont été marquées à vie, et qu'on soit encore dans la controverse dans cette journée-là.
Oui.
Ne pourrait-on pas penser uniquement à ce drame et commémorer ce drame plutôt que de parler, entre autres, du gardien du Canadien. Sur une note plus positive, parce que j'ai terminé mon commentaire éditorial, mais qui vient de mon fond, comme disait une certaine Sonia Benezra.
Oui, bien sûr.
Du côté plus positif, je suis allée à mon premier party de Noël vendredi dernier.
Premier, pas juste cette année, le premier depuis un bout de temps. Là.
Depuis un bout de temps, en effet. Et je vous en parle parce que vous allez pouvoir le retrouver, ce party de Noël, bientôt, dans quelques jours. Je parle du concert de Yannick Nézet-Séguin.
Oui, oui.
Un concert, écoutez, un peu surprenant de prime abord, puisque, en fait, il a fait un Noël jazzé. Alors, il a pris les chansons traditionnelles de Noël. On a eu droit au Minuit chrétien, Amazing Grace, et Tutti Quanti.
Mon beau sapin.
Et tout ça d'une manière jazzée, avec, avec un chœur de 200 personnes, mm-hmm. avec deux solistes à la voix. On sait qu'elles ont des voix puissantes, mais oh là là, à ce point, il faut les entendre live pour le réaliser. Je parle de Mélissa Bédard et Kim Richardson trio de Tory Butler, qui est un trio de jazz qui est quand même assez connu auprès des mélomanes de jazz à Montréal.
Ça me sonne des cloches, ça, oui.
Alors, je vous en parle parce que des airs de fête, c'est ainsi que ça s'appelle. Un swing festif et exalté, c'est ce que Christophe Huss a écrit dans Le Devoir.
Christophe Huss a dit ça, toi.
Écoutez, tout le monde était embarqué. Yannick Nézet-Séguin, là, il fait il peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Et à un moment donné, vous allez voir, j'espère que vous allez le voir,
oui,
ça va y diriger la salle, avec sa baguette.
OK, là, on se replace dans... À l'endroit où c'était à la Maison symphonique?
À la Maison symphonique, oui.
Avec un orchestre symphonique?
Ah, oh, c'est avec l'orchestre de c'est l'orchestre métropolitain, là. C'est Yannick et son orchestre.
Plus que le quatuor jazz.
Oui, exactement.
Il me semble
200 choristes.
Font Charlie Brown Christmas
ça se peut, autres, ça se peut. 200 choristes.
200 choristes?
Oui.
Et puis là, Yannick Nézet-Séguin, lui, il part le party là-dedans.
Il part le party, puis nous, on embarque parce qu'il nous dit quand taper, quoi faire, etc., etc.
Okay.
Alors bref, à Radio-Canada, vous allez pouvoir participer d'une certaine manière à ce party, puisqu'il est rediffusé le 18 décembre à 20h.
D'accord.
Le lendemain, le 19, à 20h également, sur ICI Art TV. Et sur ICI Musique, le 24 décembre à 19h. Alors, je vous invite à vous joindre à cet événement. C'est sûr que souvent, on dit « Ah, Noël, faut que ça soit fait de façon traditionnelle », mais je vous avoue que c'est un peu mon point de vue, mais que je commence pas mal à changer d'idée.
Ben, avec Yannick Nézet-Séguin dans le salon, on est prêt à tout. Hein?
On est prêt à tout, comme vous dites. Et vous, Yvan, de votre côté?
De mon côté, dans ma tanière, parce que je suis pas sorti de chez moi depuis plusieurs jours, là, j'ai eu mon test négatif à la COVID en début de semaine. Alors, on n'avait pas sorti depuis un bout. Je disais ça hors d'onde, on a été surpris du prix de l'essence. On était habitué à un prix d'essence élevé, puis tout d'un coup, ça a l'air d'avoir commencé à descendre. C'est surprenant. Non, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est la COP15. Dans les grandes COP sur le réchauffement climatique, moi, personnellement, je me sens tellement perdu. J'ai aucune idée qu'est-ce que je peux faire ou pas faire pour améliorer ou empirer les affaires. Mais la COP15, il me semble, ça se rapproche de nous. Et je lisais un article qui parlait de trois objectifs à surveiller. D'abord, de se donner l'objectif de protéger 30 % de la planète. C'est le 30-30. On veut protéger 30 % des terres et 30 % des océans. Présentement, il y a 15 % des terres dans le monde qui sont protégées, qui ont une forme de protection, et 7,5% des océans. Donc, on part de... Mais là, on commence à avoir des chiffres puis des valeurs assez concrètes. On veut aussi que... Si on veut arriver à cet objectif-là, ben, il faut travailler beaucoup avec les peuples autochtones, parce que les peuples autochtones sont à la tête d'une très vaste partie du monde. Et si on veut arriver à protéger une partie de ce monde-là, ben, il faut que ça vienne, entre autres, de la gestion des terres autochtones. Et finalement, la grande question du financement, les pays riches, est-ce qu'ils vont vouloir mettre l'argent nécessaire pour que les pays moins aisés puissent changer quelque chose, puissent travailler sur la biodiversité? Pour moi, la biodiversité, là, c'est des choses sur lesquelles je peux un petit peu agir, tandis que le réchauffement climatique, c'est encore très, très vague pour moi.
C'est théorique.
Oui. Alors, voilà ce qui a retenu beaucoup ma semaine. Je pense qu'ils n'ont pas trop fait de bruit dans votre coin, Francine, les manifestations.
Le jour de l'ouverture, qui est mardi, c'est ça, c'est mardi?
Mercredi,
c'est ça. Il y a eu trois manifestations,
oui.
Mais en fait, avec très peu de participants. Le matin, ils sont passés, le groupe à la base qui organisait la manifestation, se sont rendus au Cégep du Vieux-Montréal, qui est un point de ralliement, et à l'Université du Québec pour aller chercher des appuis,
oui.
Et c'est-à-dire d'autres personnes qui se joignent à eux. Ils n'ont pas recruté beaucoup. On est en fin de session, et on est dans les examens, alors peut'être que ça joue.
La température n'était pas fantastique. Non,
c'est quand même tranquille. Plus. C'est quand même tranquille pour le moment.
OK. On se retourne vers notre émission d'aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de la commencer, même si elle est déjà commencée. Francine, qu'est-ce qui retient votre intérêt pour notre émission d'aujourd'hui?
Ah, tout, si vous me posez la question comme ça, mais je vais vous dire qu'on va recevoir Marcel Dugas, notre historien en résidence, qui va nous parler du 6 décembre mai 1917 d'une tragédie qui a eu lieu à Halifax. Je vais vous parler d'un chat extrêmement performant qui peut changer la vie de beaucoup d'étudiants et d'enseignants en enseignement supérieur.
D'accord.
Et aussi des visioprofs en France qui suscitent beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et je sais que de votre côté, vous avez deux invités que vous attendez avec hâte.
Oui, ces deux invités à qui j'ai pas déjà parlé. Ben, j'ai parlé au téléphone. Je parle toujours au téléphone aux gens avant de faire l'entrevue en onde. Mais c'est pas des gens que je connais d'avance. Alors, il y a Lise Veilleux. Lise Veilleux, elle, c'est pour notre chronique Au-delà des limites. Elle a couru un duathlon. Jusqu'à présent, ça paraît très mystérieux, mais il faut savoir que Lise Veilleux, elle ne voit pas. Alors, elle a couru 7,5 km, elle a fait du vélo tandem pour 20 km et elle a recouru 2,5 km, c'était au mois de septembre. C'est une expérience fantastique qui a été chapeautée par l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain et on s'en parle tantôt. Et je parle aussi à Édouard Boucher qui est de Moelle-Épinière et Motricité Québec. Lui, il est organisateur communautaire pour la Ville de Québec puis pour l'Est du Québec et on va parler de volleyball pour des personnes qui ont des problèmes de motricité. J'ai bien hâte parce que moi, j'ai beaucoup joué au volleyball et puis je suis très curieux de voir comment ça se fait. Alors, on lance ça dès maintenant.
1, 2, 3, 4. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Tu viendras longtemps marcher dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum de regret. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Je vous donne le titre « À l'encre de tes yeux ». Et je vous laisse deviner qui sont les interprètes. Puisque c'est un duo.
Oui, c'est un duo, comme à notre habitude. Alors, la voix féminine, c'est Marie-Pierre Arthur. Et la voix masculine, c'est Ian Kelly. Francine, c'est à vous.
Merci. La Presse Plus, d'abord, pour nos Unes nationales. Un coup de pouce aux aînés en attendant la récession. On fait référence ici à la mise à jour économique du ministre des Finances, M. Éric Girard, qui a eu lieu. En 5 points, je vous le résume rapidement en m'appuyant sur l'écran signé Charles Lequevalier. Premièrement, on parle d'un nombre record de postes vacants. En 2023, on dit qu'encore il y aura davantage de postes vacants, donc des emplois qui sont créés. Par un manque de bras, c'est exactement l'expression qu'on utilise, une taxe sur le vapotage. Alors, la mise à jour sert à frapper l'industrie du vapotage d'une taxe d'assises équivalente à celle d'Ottawa. indexation de l'aide sociale et des tables d'impôts, je m'excuse, donc les paramètres du régime fiscal et des programmes d'assurance, d'assistance sociale qui sont indexés de plus de presque 6,5%. Montant confirmé pour le logement et la sécurité à Montréal. On parle ici d'une construction de 3000 logements sociaux et abordables. Et enfin, la construction résidentielle qui est amochée par les taux d'intérêt. Alors évidemment, ça reste un secteur vulnérable et évidemment, l'industrie va être soutenue par le ministre espère toutefois qu'il y aura un atterrissage en douceur et que l'industrie est soutenue par la rareté des maisons et de logements neufs. Toujours à la une de la presse plus, on parle aussi d'un boisé qui est rasé pour la construction d'une maison des aînés. Ça a lieu à Grimbay. Mm-hmm. Alors, les gens ne sont pas contents. On dit on a arraché un poumon à la ville. Des citoyens s'indignent de la construction d'un nouveau centre d'hébergement pour lequel un espace vert et des arbres centenaires ont été sacrifiés. Cette une, c'est, je dirais, un peu ironique puisque dans le contexte de la COP 15. La COP 15 qui fait la une du devoir. Alors, on parle d'une crise aussi urgente que celle du climat. Il y a un comité qui plaide pour une protection accrue de la biodiversité au Québec. C'est Alexandre Shields du Devoir qui nous en parle. La protection beaucoup plus stricte de la biodiversité du Québec est essentielle pour lutter contre les dérèglements du climat et se préparer aux impacts de ceux-ci, prévient ce comité qui est chargé de conseiller le gouvernement Legault sur les changements climatiques. Il a remis un rapport, en fait, les 11 membres qui sont membres de ce comité, les 11 personnes, ont remis un rapport au ministre Benoît Charrette le 24 novembre. Et ce comité plaide pour l'arrêt de la destruction des milieux naturels, l'étalement urbain aussi, il faut arrêter ça, mais aussi pour une révision en profondeur des pratiques forestières et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de la biodiversité.
Mmh.
Alors, partout, dans toutes les unes, évidemment, tout dépendant de l'espace qu'elle occupe, on parle de Céline Dion.
Bien, oui.
Dans le Journal de Montréal, on consacre 8 pages à la question de sa maladie. Dans Le Devoir, il y a un article intéressant d'Étienne Paré qui dit « La chanteuse est devenue intouchable, comme en font foi les réactions à l'annonce de sa maladie. » Cette maladie, qui est le syndrome de Meurche-Waltham, c'est ce dont elle est atteinte. Céline Dion, elle a semé l'émoi jusqu'à l'Assemblée nationale hier en annonçant dans une vidéo qu'elle a lancée très tôt le matin qu'elle était atteinte de cette maladie et que, évidemment, malgré des progressions lentes, elle était quand même incapable d'offrir de présenter ses spectacles. Et donc, elle a remis et annulé plusieurs spectacles qui étaient prévus pour 2023 et 2024. Dans cet article, Étienne Paré prend un angle différent des autres reportages qu'on a pu voir. Il dit que la diva de Charlemagne est devenue politique, elle est devenue une icône, une figure de proue du Québec, tant elle est source de fierté chez nombre de ses compatriotes.
Oui,
et c'est vrai qu'hier, quand on regardait les réactions du premier ministre et d'autres membres de l'Assemblée nationale, on voyait que c'était tout à fait vrai. Donc, on ne peut plus regarder Céline de la même manière, avec un petit regard en coin disant que c'est quétaine. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, on pouvait le faire, mais maintenant, c'est plus gênant. Il dit cette condescendance-là est perçue comme suspecte. Et c'est un professeur de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, dont les recherches portent sur le monde du spectacle, entre autres, qui évalue la situation de cette façon. Il dit « On est très loin de l'époque des sketchs vitrioliques de RBO et des bleus poudres sur Céline Dion. Aujourd'hui, la honte semble avoir changé de camp. » Alors, c'est un point de vue qui est, disons, rarement...
exprimé.
Rarement exprimé. Dans le Journal de Montréal, comme je vous disais, il y a 8 pages qui sont consacrées à cette nouvelle, mais j'attire votre attention peut-être sur le commentaire de Sophie Durocher qui parle justement de la difficulté probablement qu'éprouve à ce moment-ci Céline Dion, ce qui pourrait expliquer son, je dirais, son retard ou en tout cas le temps qu'elle a pris à parler ouvertement de cette maladie qu'elle a. Et elle utilise des mots durs, mais qui sont assez justes, Sophie Durocher. Elle dit elle a vécu la mort de son conjoint, de son père, de sa mère, et maintenant elle vit la mort de sa voix. Et c'est peut-être quelque chose qui est le plus difficile quand on la connaît, quand on sait à quel point elle aime performer, qui est peut-être le plus difficile à vivre pour elle.
Oui, elle doit se sentir très seule dans sa difficulté.
Dans sa difficulté, oui. Et pour terminer, toujours en une du Journal de Montréal, puisque ça a été un petit peu occulté compte tenu de cette nouvelle, justement, émanant de Céline Dion, eh bien, M. Fitzgibbon, qui fait l'objet d'une sixième enquête de la commissaire à l'éthique. On verra ce que ça donnera. C'est à la suite d'une partie de chasse controversée.
Au faisant,
voilà.
Oui. On rejoint Monique Kerouac dans son estrie. Alors, comment ça va, Monique?
Ben, ça va bien. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas participé à cette chasse sur le lac Manfred-Margueron. Je ne fais pas partie de cette élite.
Oh, ah. On est déçus, Monique. Ben, on aurait aimé ça, vous en entendre parler.
Puis probablement qu'il n'y avait pas de femmes.
Peut-être aussi.
Juste.
Je sais que les gens étaient costumés. J'aurais voulu avoir un compte-rendu des costumes.
Oui, c'est ça. Alors, écoutez, on va être plus sérieux, là. On va parler éducation. Alors, il y a la petite municipalité de Stratford, dans la MRC du Granit, qui a pris les choses en main pour offrir des places en garderie aux familles de son territoire. Alors, à compter du printemps prochain, donc 2023, il y a un projet pilote qui permettra d'accueillir 12 enfants de 0 à 5 ans dans un local aménagé au deuxième étage du bureau municipal. Alors, la mairesse de cette municipalité, Denise Blanchette, est vraiment fière parce que ce service éducatif en communauté répond à un concept qui a été lancé en avril dernier par le ministère de la Famille et qui devient le deuxième projet du genre à être autorisé en Estrie après celui du lac Brome. Alors, il faut savoir qu'il reste peu de place en milieu familial. Ils ferment tous, entre autres, à cause de la pandémie. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on offre un service de garderie comme si c'était dans une maison, entre autres de deux responsables qui ont été élus pour superviser ces petits-enfants, sauf que les deux personnes vont être sous le même toit. Comme je le disais, là, dans un bureau municipal, et ça va faire une petite équipe de personnes qui seront moins isolées. Alors, on souhaite beaucoup de succès à ce type de projet-là. Je vous parle encore de Mégantic, de lac Mégantic. Ça fait encore couler de l'encre.
Pas encore le train, puis la voie de contournement et tout ça?
Oui, encore une fois. Alors, écoutez, c'est que, alors que le Québec, vous parliez de biodiversité tout à l'heure, oui. Ben, s'impose depuis quelques années une gestion complexe des milieux humides et hydriques. Tous ces milieux contribuent énormément, n'est-ce pas, à la biodiversité. Mm-hmm. Alors, il y a la construction dans le but donc de permettre d'atteindre d'aucune perte nette, la construction de la voie de contournement ferroviaire à lac Mégantic va détruire elle seule pas moins de 66 hectares de ce précieux milieu sur son parcours de 2,5 kilomètres. Ces hectares-là, ça représente 22 fois la superficie totale des milieux humides qui ont été détruits avec autorisation en 15 ans dans toute la MRC du Granit. Alors, on déplore bien sûr la perte de ces milieux, mais on estime qu'il s'agit du moins pire des compromis pour assurer la sécurité de la population de la région. Cependant, on souhaiterait que la MRC souhaite et réclame du ministère de l'Environnement qu'il réserve 4,5 millions de dollars pour des projets environnementaux sur son territoire, au lieu de verser cette somme au Fonds de protection d'environnement et du domaine hydrique de l'État. On sait qu'il ne dépense pas du tout tout l'argent qui est dévolu à ce fonds-là.
Oui,
alors voilà. c'est à suivre encore une fois. Pour les sportifs, oui. Amateurs, adeptes de ski alpin,
oui,
alors
oui,
qu'on n'a pas un grain de sable.
De neige, dans
de neige, c'est ça, peut-être, là. C'est encore tout vert. Ben, la saison du ski alpin va être lancée en Estrie. Alors, la station de ski de Orford ouvre aujourd'hui. Bien sûr, vous devinez qu'il n'y aura pas beaucoup de pistes. Ça va être refermé du 12 au 14 pour ouvrir définitivement le 15. Entre le 12 et le 14, on va faire encore de la neige. Ah, si oui. Vous connaissez Halsted, Mansonville, oui. Cette montagne nous offre une vue imprenable sur le lac Memphremagog. Ben, ça ouvre aussi samedi à 9h, mais bon, il y a peut-être 3 pistes là, qui sont ouvertes. Et l'ouverture officielle est prévue le 15 décembre. Bromont a 2 pistes accessibles et Sutton ouvre ce week-end. Je terminerai.
Et la crème solaire doit être très populaire en fin de semaine.
Oui, c'est ça. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un cadeau original, Jean et Francine, pour les fêtes. Alors pourquoi pas offrir des sous-vêtements tout en contribuant à une bonne cause. Alors, la laiterie de Coaticook propose de nouveaux caleçons napolitains cette année.
Oui, oui, oui.
Alors, d'ici le 31 janvier, tous les profits amassés sur la boutique en ligne de la laiterie seront remis à la fondation du CHUS. Il y a 4 ans, elle avait lancé cette laiterie, la première gamme de caleçons, en imitant le pot de crème glacée à la vanille.
Oui, j'avais vu ça.
Et tous les fonds avaient été remis à Lucan. Donc, si vous avez le goût, ça coûte 20 $ Alors, ils espèrent ramasser encore plus que soit les 70 000 $ qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc, voilà pour une petite idée de cadeau.
Ben, gros merci. On va sûrement y penser. Et au plaisir de se reparler la semaine prochaine.
Oui, avec plaisir. Bonne semaine.
Merci, au revoir. Du côté de Québec, le budget 2023 a été adopté. Québec, d'abord, se range finalement derrière le maire. Ça n'a pas été simple. Revirement majeur de situation à l'Hôtel de Ville de Québec. Après avoir comparé l'exercice à un dîner de cons, l'opposition officielle se range derrière le maire Marchand et appuie le budget de fonctionnement et d'immobilisation. Les élus devaient se prononcer tour à tour sur le programme décennal d'immobilisation, le PDI, et les investissements liés au tramway, ainsi que le budget de fonctionnement 2023. L'administration Marchand avait surpris tout le monde cette semaine en retirant le budget du tramway du PDI et en annonçant 2 votes distincts. Plusieurs y voyaient une manœuvre pour obtenir l'appui des conseillers indépendants Jean-François Gosselin et Bianca Dussault, eux qui sont farouchement opposés au tramway. Et du côté d'Ottawa, la situation financière serrée du ministère du patrimoine canadien ne justifie pas une réduction du personnel cette année, selon sa plus haute fonctionnaire. Le ministre Pablo Rodriguez, cependant, ne s'est pas avancé sur cette affaire. Et du côté du hockey, les sénateurs d'Ottawa ont match nul contre Dallas, eux autres qui croyaient quand même pouvoir gagner. Dans quelques instants, on prend une petite pause, dans quelques instants, on vous revient. J'ai bien hâte de rencontrer Lise Veilleux, qui a fait un duathlon, qui a couru un duathlon. En fait, elle n'a jamais vu la ligne d'arrivée, elle l'a juste senti. Alors,
vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Rue d'Offerton. je suis pas loin du campus, puis je suis pas loin chez Dwayne's. I'm on top with a foreign.
Puis des fois, je m'ennuie de toi.
Edith Butler et Marie-Jo Thériault qui chantaient Rue Dufferin.
Merci beaucoup pour ce choix. Alors, je parle je vais parler avec Mme Lise Veilleux. Lise Veilleux, elle est membre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Et en septembre dernier, elle a réalisé un duathlon. Un duathlon, c'est 5 km de course, 20 km de vélo tandem et 2,5 km de course. Et on va passer un petit bout de temps avec Mme Veilleux pour connaître comment ça s'est passé et comment elle a vécu cet événement-là. Bonjour, Mme Veilleux.
Bonjour, M. Delaurier.
Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie quand vous ne vous préparez pas à faire un duathlon?
Je continue à courir.
D'accord.
Je vais au gym et je suis une adepte aussi des randonnées pédestres.
Oui, oui, oui. Donc, vous participez à certaines activités de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, c'est ça?
Exactement, oui.
Et de quelle façon on vous a abordé pour vous demander votre intérêt pour participer? Parce qu'il n'y en avait pas eu de duathlon avant cet événement-là. Alors, comment on vous a présenté ça?
Mais premièrement, c'est lorsque je reçois l'info hebdo de l'ASAM, l'Association sportive des aveugles du Montréal métropolitain. Alors, je voyais ça passer, puis je me disais, waouh, quelle belle initiative, quel beau projet. Mais moi, personnellement, j'avais pas vraiment couru. Je me suis inscrite au gym l'an passé, mais je le faisais pour le plaisir. Puis je me disais, citron, 7,5 km.
C'est long,
vélo,
hein?
Ça va. Le vélo, ça va parce que je fais énormément de vélo tandem.
Oui.
Ça allait. Mais j'ai dit, bon, je vais pour le plaisir, je vais m'entraîner au gym, puis je vais faire du tapis. Puis bon, si j'arrive à faire 5 km, c'est beau. Mais encore là, il fallait trouver un guide pour moi.
Oui, oui, oui.
Alors, c'était l'idée de si on trouve un guide, je vais peut-être me lancer dans l'aventure, dépendamment si elle et moi ou lui et moi, ça clique, comme on dit.
Bien sûr.
Et puis, pour faire une histoire courte, quelqu'un de la SAM là, qui est très impliqué, il me dit, Lise, on est à la recherche de guides, là. Ça se pourrait qu'on t'en trouve un ou une. Mm-hmm. Et effectivement, on en a trouvé une et elle et moi, ça a cliqué. Alors, le 1er juillet, là, j'ai vraiment commencé à m'entraîner pour le duathlon. Et on sait bien que le duathlon, c'était le 17 septembre.
Oui, 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 oui. Alors, vous couriez sur un tapis roulant, donc est-ce que vous aviez une idée de la distance que vous couriez à ce moment-là?
Oui, parce qu'avec mon Apple Watch, évidemment, la technologie nous aide énormément maintenant, nous les non-voyants, avec VoiceOver et Siri. Alors, ça me donne la possibilité de savoir exactement combien de kilomètres je cours sur le tapis.
Oui.
Mais là, Audrey et moi, on a commencé à courir à l'extérieur. Ça, c'est une autre histoire, courir à l'intérieur.
Oui, oui. Mais comment qu'on court avec une partenaire? C'est Mme Audrey Bélanger, je pense.
Exactement, oui.
Je pense que vous êtes relié par une courroie, c'est ça? C'est comme
oui,
ça que ça fonctionne?
C'est ça, une petite courroie, que ce soit fabriquée maison ou un petit peu genre élastique qu'on peut acheter puis qu'on fabrique soi-même. Là. Puis,
oui.
C'est ça. Des fois, je fais juste lui tenir un petit peu la manche parce que là, depuis qu'on on court ensemble quand même de façon régulière, c'est comme...
Depuis que vous êtes des professionnels?
Ben, je sais pas si c'est professionnel, mais plus à l'aise l'un et l'autre. La complicité est là, la confiance est là. Donc, parfois, j'utilise la corde, parfois pas.
Madame Bélanger, elle, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie avant d'être votre partenaire?
Ben, elle court des triathlons.
Oh!
Et elle fait des marathons. Et là, elle s'entraîne pour faire un Ironman.
Mon Dieu, oui.
Alors, j'ai toute une compagne. Hein?
Mais est-ce que vous avez eu... Je connais pas du tout votre performance en course, mais est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous accorder? Au point de vue de la vitesse de course?
Bien, c'est sûr qu'elle s'est adaptée à moi. Là, clairement, je lui disais, hey, moi, je pars de loin, je pars de zéro. Là.
Ouais.
Puis là, j'étais comme très impressionnée. Mais c'est une personne avec une empathie là, hors du commun.
Oui.
Et ça, ça y fait pour beaucoup. Donc, elle s'est adaptée à moi et ça va bien. Puis c'est sûr que là, j'ai beaucoup amélioré ma vitesse de course, mon endurance, ma capacité de courir de plus longues distances là, sans trop m'arrêter.
Oui. Mais à vous écouter, vous devez être quand même une partenaire assez intéressante avec qui courir.
C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, faut que ce soit du plaisir. Faut pas qu'il y ait aucune obligation. Comme on va courir à 16h30 aujourd'hui, là, puis on devait courir mercredi, mais on a changé parce qu'on connaît la météo. Hein.
Oui, je comprends.
C'est passé mercredi, donc ce soir, on court. Là. On essaie de se voir une fois semaine, puis de maintenir. Puis c'est sûr que là, comme mon entraîneur me disait au gym, je présume que là, tu veux aller plus loin qu'un 7,5 km. Ben, c'est sûr que je vise le 10 km, là, éventuellement. Là.
Donc, vous, un de vos prochains objectifs, ça serait de courir, je ne sais pas moi, je sais qu'au demi-marathon de l'Outaouais, il y a un 10 km, des choses comme ça. C'est quelque chose que vous considéreriez?
Oui, absolument. Je vise le 10 km tout en le faisant dans le plaisir et avec les capacités, les disponibilités surtout qu'on a tous les deux. Mais moi, l'entraînement au gym se poursuit deux fois semaine, là, régulier. Ouais. Puis c'est vraiment un beau projet. Mais ça a été un défi hein, pour moi.
Oui.
Je ne cacherai pas que je suis tombée à la retraite non par choix à cause de la pandémie. Suite à ça, je me suis dit, tiens, je me lance ce défi-là de personne à la retraite. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Puis moralement, là, c'est une éducation qui a fait ses preuves.
C'est une drogue forte.
C'est une drogue forte et douce à la fois.
Oui. Racontez-moi maintenant la journée du duathlon lui-même. C'est un dimanche, je pense.
Oui, c'était un dimanche.
Il faisait chaud?
Oui. Extrêmement chaud. Alors, c'est sûr que j'étais contente, j'étais excitée, j'avais de la misère à croire que j'étais là, mais c'est au moment où on s'est mis à courir, puis que le peloton s'est mis en branle, pour ne pas dire en marche, que là, j'ai dit, mais j'y suis pour vrai. Puis Audrey me l'avait dit, tu vas voir, Lise, le feeling que ça fait, là, les gens crient, puis ça applaudit, puis... Mais c'est quand même quelque chose.
Oui.
Bon, moi, la chaleur m'a affectée, j'avoue, mais j'ai réussi à le faire. J'aurais voulu dépasser un peu ce qu'on faisait ensemble lorsqu'on pratiquait, mais j'ai maintenu ce qu'on osait acquis. Mais déjà là, je me suis dit, je l'ai réalisé, c'est ça que je voulais.
Tout à fait. Vos sensations quand vous courez ou quand vous roulez dans cet événement-là, c'est quoi?
Ah, c'est un accomplissement, c'est... de dire, hey, j'ai la santé, j'ai la vie, j'ai des capacités peut-être, entre guillemets, insoupçonnées. Puis c'est un défi, vraiment un défi à relever, vraiment. Ouais.
D'accord. Parlez-moi des passages. Vous passez de la course au tandem et éventuellement du tandem à la course, mais le passage lui-même n'est pas simple.
Non, il est pas simple, puis on essaie de le faire le plus rapidement possible. Donc là, ça demande vraiment, là, puis la piste, moi j'ai le Villeneuve, je vais souvent faire du vélo là, mais la piste comme telle, adaptée pour le duathlon, il y avait des choses que je connaissais pas. À un moment donné, il fallait monter un escalier pour se rendre au vélo, puis après ça, sauter sur le vélo, puis mettre le casque, puis mettre les gants, puis ça avec le plus de rapidité possible. Donc, il y a un petit stress, mais... Audrey, encore là, a été vraiment une partenaire extraordinaire. Elle a beaucoup de zénitude en elle. Donc, c'est quand Lise, on est là, on le fait. Puis, mais c'était, oui, j'ai trouvé ça exigeant. C'est sûr que je m'étais mise la barre très haute.
OK. J'ai déjà fait des événements de longue distance à vélo, dans mon cas. Et quand on voit la ligne d'arrivée, moi je la voyais, la ligne d'arrivée, il y a toute une sensation qui se passe d'accomplissement. Maintenant, vous la voyez pas, la ligne d'arrivée. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé près de la ligne d'arrivée?
Mais vous savez, vous me demandez ça, là vous me voyez pas, là, j'ai les larmes aux yeux, puis je suis tellement émue parce que... Audrey, elle me dit, Lise, il reste 1 km. Puis là, les gens se sont mis à crier puis à applaudir, puis... Ah! Oh, là, ils ont pris la photo, là. Ça a fait, ah, je l'ai fait! Donc, elle me disait, « Oh, Lise, on lâche pas, on y arrive. » Donc, c'est elle qui était mes yeux à plusieurs niveaux pour me dire ce qu'il y avait aux alentours ou encore, mm-hmm. Bon, les gens sont là, puis on approche, puis ouais, vraiment. Avec une athlète d'expérience comme ça, j'étais vraiment très choyée.
Fantastique. Et qu'est-ce qu'il y a devant vous pour les prochaines semaines, mois, peut-être un événement que vous préparez déjà pour 2023, je ne sais pas?
Bien, j'ai eu des oui dire qu'il y aurait un autre duathlon l'an prochain.
Oui.
Quand j'ai entendu parler de ça, je me disais, bon, je ne sais pas, mais là, c'est ah oh, oui, je vais le faire. Oui, 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 ça me tente. Puis c'est mon défi. Donc, c'est de continuer à m'entraîner. Mm-hmm. D'améliorer toujours mon endurance, mes capacités, puis être capable de faire un 10 km, c'est ce que je vise. Ouais.
Un beau bravo, Mme Veilleux. Vous avez accompli un exploit hors du commun. J'ai des frissons juste à vous écouter. Félicitations, un gros félicitations. Je parlais avec Mme Lise Veilleux, qui est membre de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, et elle nous racontait son duathlon du mois de septembre dernier, et on vous souhaite bonne chance pour votre prochain duathlon, et qui sait, peut-être un 10 km.
Il n'y a pas d'âge pour s'impliquer, puis il n'y a pas d'âge pour essayer de le faire.
Et il n'y a pas de limite non plus.
Il n'y a pas de limite. Oui, exactement.
Un gros merci pour votre témoignage.
Merci à vous, ça a été un grand plaisir.
Merci,
bonne
au
journée.
Revoir.
Au revoir.
C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop fieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma tête et si ça te tente, ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas. Gros virement sur mon compte. Non, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout. Je te quitte pour un seul mot, je t'épouse pour un texto, je pleure pour un ciel pauvre. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de lit, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. C'est la terre des terres, je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire, ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout.
C'était Emma Peters qui chantait Fou.
Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour.
Ça va bien ce matin?
Très bien, vous-même.
Oui, ça va très, très bien. Alors aujourd'hui, vous nous amenez à Halifax.
Oui.
On se replonge dans l'histoire. Le 6 décembre 1917, alors que les gens de cette ville ont vécu une tragédie vraiment dévastatrice.
Oui, le 6 décembre au Québec, on le sait, c'est une journée solennelle. On a commémoré mardi le 33e anniversaire de la tuerie de l'École polytechnique. C'est un événement qu'on souligne aux quatre coins du Canada. Mais en Nouvelle-Écosse, le 6 décembre est une journée de recueillement pour une raison différente. Il y a 105 ans mardi, la ville d'Halifax était dévastée par une explosion qui a fait autour de 2000 victimes. 1917, on est en pleine guerre mondiale, le Canada fait partie de l'Empire britannique et le port d'Halifax va devenir une base d'opération majeure pour la Royal Navy de Grande-Bretagne. Les cargos qui transportent des denrées et des matières premières depuis les États-Unis et le Canada vers l'Europe s'assemblent en convoi à Halifax pour traverser l'Atlantique sous escorte militaire. L'Allemagne disposait d'une flotte de sous-marins qui décimait les navires de commerce alliés. De plus, les navires des pays neutres qui se dirigeaient vers les différents ports d'Amérique du Nord devaient s'arrêter dans la capitale de la Nouvelle-Écosse pour inspection. Il fallait s'assurer notamment qu'on ne transportait pas de produits allemands. Donc, Halifax, c'est un point de chute pour le commerce transatlantique des marchandises. La population combinée de la ville et de sa voisine Dartmouth, de l'autre côté du bassin où se trouve le port, dis-je bien, a augmenté de façon significative pendant la guerre et s'élève à 60-65 000 personnes environ. Au soir du 5 décembre, il y a deux vaisseaux qui se voient immobilisés dans le port. Le IMO, navire norvégien qui se dirige vers New York pour aller chercher des denrées à destination de la Belgique, ne peut en sortir, alors que le navire français Mont-Blanc ne peut y entrer. Ils devront tous les deux attendre au lendemain pour reprendre leur chemin. Au matin du 6 décembre, le temps est clair, la visibilité est excellente, ce qui rend la tragédie qui allait survenir dans le port particulièrement difficile à comprendre. On sait que le trafic intense va amener le IMO à se diriger vers la gauche, alors que les navires se doivent toujours garder la droite lorsqu'ils traversent le détroit reliant le port à l'océan. Sa trajectoire se trouve à rencontrer la trajectoire du Mont-Blanc qui vient en sens inverse. À ce moment-là, on n'a pas les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui. Les capitaines se parlent par sifflet, mais les deux vaisseaux avaient chacun leur raison de préférer continuer en ligne droite et ni l'un ni l'autre des navires n'a modifié sa trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. On a coupé les moteurs, mais un navire, ça ne s'arrête pas comme ça. Et malgré une tentative désespérée de bifurquer de la part du Mont-Blanc, le IMO a ouvert le côté du navire français à 8h45 du matin. C'est une collision à basse vitesse. Le dommage n'était pas épouvantable, selon les témoins. Mais on retrouvait des barils de benzole, c'est un sous-produit du goudron, très inflammable, sur le pont du Mont-Blanc, ce qui n'était pas vraiment prudent. Les étincelles produites par le contact entre les deux coques de navire ont allumé des incendies et le cargo s'embrase très rapidement. Le capitaine ordonne presque immédiatement à l'équipage d'abandonner le navire et l'incendie est franchement spectaculaire. Tout le monde dans le port, sur l'eau, observe ce qui se passe. Les marins du Mont-Blanc vont tenter de dire au navire qui se trouvait aux alentours de s'éloigner sans succès. Et la raison pour laquelle l'équipage a abandonné le Mont-Blanc si vite, c'est qu'il était rempli de produits explosifs qu'on destinait au champ de bataille d'Europe. En plus du benzol, il y avait de la nitrocellulose, du trinitrotoluène, du TNT si vous préférez, et de l'acide picrique. Je ne connaissais pas ce dernier composé, mais c'est, semble-t-il, encore plus dangereux que du TNT. Le navire était une bombe à retardement.
Je m'excuse, Marcel, est-ce que c'était connu justement que c'était une bombe sur l'eau, ce navire, ou c'était un peu incognito qu'on faisait cette traversée avec cette cargaison?
Normalement, un navire avec des produits dangereux comme ça aurait été identifié d'une quelconque manière. J'ai vu à certains endroits qu'on ne lui aurait pas permis d'entrer dans le port, à d'autres moments que oui, mais qui aurait été identifié par un drapeau spécial, mais on est en temps de guerre, et je le disais, on redoutait les sous-marins allemands, donc c'est sûr que si un cargo s'identifie, nous avons des matières explosives, à ce moment-là, c'est comme lui dessiner une cible de tir à l'arc sur la coque du navire, si vous voulez, donc c'est pour ça qu'on était discret par rapport à ça, et franchement, si les résidents et résidentes d'Halifax avaient su ce que transportait le vaisseau français, la ville aurait sûrement été prise d'une panique extraordinaire, mais au lieu de ça, beaucoup d'Haligonians, comme on les appelle, se sont arrêtés sur la route, vers l'école, le travail, peu importe, ils sont sortis de leur maison, ou ils se sont installés à la fenêtre pour observer la scène. Le Mont-Blanc a brûlé pendant 20 minutes, le temps que les brigades du service des incendies arrivent et commencent à dérouler leurs boyaux, et à 9h04, la bombe a explosé. Tout ce qui se trouvait dans un rayon de 800 mètres a été anéanti. Une déflagration pareille sur l'eau, ça a causé un tsunami qui a atteint 18 mètres de hauteur. On est à la fin de l'automne. Les poêles à bois, les lampes à l'huile étaient allumées un peu partout. Le choc a causé de nombreux incendies. Le bilan officiel de l'explosion, du tsunami et des incendies est de 1782 morts, ce qui est probablement une estimation conservatrice. Les quartiers autour des ports des villes abritent toujours une population hétéroclite, qui ne tient pas nécessairement à ce qu'on sache où ils et elles vivent, ni ce qu'ils et elles font. Il y a sûrement des gens dont on n'a pas retrouvé le corps et que personne n'a signalé comme étant disparu. On peut présumer que le bilan réel est plus élevé.
C'est ça pourquoi vous parliez de 2000 victimes.
C'est ça. C'est qu'on ne saura jamais très exactement le chiffre réel, mais ça doit être aux alentours de 2000, un peu plus, un peu moins. Et en plus des morts, on a dénombré 9000 blessés, dont beaucoup de gens blessés par les éclats de verre des fenêtres devant lesquelles il et elle s'est installé pour regarder ce qui se passait. Beaucoup de blessures aux yeux, entre autres. Plus de 12 000 maisons et édifices ont été endommagés ou détruits. Et à l'aube de l'hiver, on comptait plus de 30 000 personnes sans abri ou vivant dans des maisons rendues plus ou moins habitables par le sinistre. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a eu un blizzard qui a frappé la ville le lendemain, 41 cm de neige, ce qui a compliqué les opérations de sauvetage et bloqué les trains de provisions qui arrivaient d'un peu partout dans l'est du Canada et le nord-est des États-Unis. Au moins, les secours se sont organisés rapidement. L'explosion a eu lieu à 9h du matin et dès midi, il y a un premier train transportant des vivres et du personnel médical en provenance de la ville de Truro, en Nouvelle-Écosse, qui est arrivé à Halifax. Les navires britanniques et américains qui se trouvaient à proximité sont arrivés promptement. Les marins ont été mis à contribution. L'État américain du Massachusetts a été particulièrement généreux en argent et en personnel médical. On a réussi à rétablir les communications, les lignes télégraphiques, les voies de chemin de fer assez vite. On a remis le port en état de fonctionnement en quelques semaines. Il avait acquis une importance stratégique, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Mais la reconstruction du secteur nord de la ville, tout particulièrement le secteur Richmond, qui avait été le plus durement touché, ça a pris du temps. C'était avant la tragédie un quartier ouvrier, pas vraiment chic. On l'a transformé en un secteur très recherché. On a construit à faible densité beaucoup d'arbres, d'espaces verts. Mais tout le monde n'était pas égal devant la tragédie. Ça ne vous étonnera pas d'apprendre que la communauté d'Africville, un secteur presque exclusivement afro-descendant situé à proximité, n'a reçu qu'une toute petite partie des fonds d'urgence et n'a pas profité du programme de revitalisation urbaine post-tragédie. Et la communauté Micmac, qui se trouvait tout près du site de l'explosion, qui a été très durement touchée, n'a pas été reconstruite. Ça tombait bien, ça faisait déjà un petit moment qu'on cherchait à les déplacer et à les envoyer dans une réserve. Ça s'est fait à ce moment-là. Les compagnies propriétaires des deux navires, évidemment, se sont pointées du doigt. On ne voulait pas être reconnus comme responsables de ce qui est arrivé. Au bout d'un long processus judiciaire, ça s'est rendu devant la Cour suprême et tout, on a déterminé que le blâme devait être partagé également entre le Limo et le Mont-Blanc, qui a été, je termine là-dessus, Francine, pulvérisé sous la force de l'impact. Une pièce de l'ancre du Mont-Blanc, qui pesait une demi-tonne, a été retrouvée à 3 km du site de l'explosion, où on en a fait un mémorial aux victimes de la tragédie du 6 décembre 1917.
C'était toute une tragédie, effectivement, dévastatrice, comme vous l'avez mentionné. Alors, merci beaucoup, Marcel, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Francine.
Magog, qui va accueillir le championnat provincial de curling en fauteuil roulant, c'est ce que nous apprenait le Reflet du Lac, Patrick Trudeau. Alors, les champions sortants de l'équipe du Québec auront la chance de défendre leur titre dans leur château fort au club de curling de Magog, alors qu'on va accueillir le championnat provincial en fauteuil roulant les 10 et 11 décembre. Et cette nouvelle est intéressante parce que depuis une quinzaine d'années, il y a un quatuor qui mène vraiment le bal et qui a remporté à plusieurs reprises. En fait, on parle d'une douzaine de reprises le titre québécois. Mm-hmm. Ce quatuor est composé de Karl Marquis, Benoît Lessard, Joanne Mathieu, Sonia Desloges, François Lacourse qui complète aussi, c'est un membre substitut, et il est dirigé par Germain Tremblay. Alors, c'est à suivre.
Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est une activité qui a pris plus d'images avec les Jeux olympiques de Pékin dernièrement, parce qu'on a vu des compétitions de curling en fauteuil roulant. C'est vraiment, vraiment intéressant.
Alors, dans la prochaine demi-heure, Yvan, vous allez accueillir un représentant de Moelle Épinière et Motricité Québec. Mm-hmm. Et juste avant, on parle techno.
Alors, à tantôt.
Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et on se tourne vers une nouvelle voix, Édouard Boucher. Édouard Boucher est organisateur communautaire pour la région de Québec. Oh oui, c'est vrai! Merci de me ramener à l'ordre.
J'aurais pu l'appeler immédiatement, mais...
Non, c'est bon, excuse-moi. On se tourne vers Francine. Mille pardons.
Bon, là, vous ne voulez pas entendre parler de techno, mais non, je vais quand même en parler.
J'étais tellement concentré sur le volleyball pour les personnes à motricité réduite que j'ai oublié qu'on avait la chronique techno. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner?
Rien, me laisser parler.
D'accord.
Ça va? Alors, Yvan, sérieusement, je vais commencer par un article du Devoir ce matin qui parle d'un chat GPT. On oublie GPT, on va parler d'un chat.
Où, mais j'ai pas le droit de parler, alors c'est correct.
On n'a pas dit pas le droit quand même. Okay. Alors, c'est une application d'intelligence artificielle qui va permettre de discuter avec un robot de manière naturelle. Vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Sur beaucoup de sites Internet, maintenant, on a des chats.
Oui,
on peut poser des questions et tout ça.
C'est très pratique.
Mais celui-ci, nous apprend Alain McKenna dans Le Devoir, il est dérangeant, il est puissant. Sa prétention, c'est de produire en réponse à une question très précise des textes touffus et détaillés qui vont pouvoir rivaliser dans leur forme avec des essais de niveau post-secondaire.
Mais est-ce qu'on parle d'un domaine en particulier?
Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. Il est pas mal, je dirais, multisectoriel.
D'accord.
Les étudiants vont pouvoir l'utiliser pour rédiger leurs travaux, les enseignants pour les corriger. Alors, personne n'apprend, personne ne gagne. Alors, on lance un cri du cœur. S'il y a un temps pour repenser ce modèle, c'est maintenant. Mm-hmm. On s'inquiète. Son champ d'expertise, alors, dans la plupart des langues, donc il peut rédiger des courts essais, produire une lettre de motivation sur mesure, séduire à tout coup des futurs patrons, et il est capable aussi de résoudre des équations mathématiques. Il est quand même bon. Les programmeurs et les enseignants ont réagi vivement à l'arrivée de ce chat-là. Alors, on comprend pourquoi. Un professeur de l'Institut des technologies éducatives de la London School of Economics and Political Science, Mike Sharples, il avertit que l'impact va être énorme sur l'école. Et quand on parle d'école, on parle d'enseignement supérieur. C'est peut-être je dis pas que c'est moins pire quand c'est à la petite école, c'est pas ce que je veux dire, mais quand on parle d'enseignement supérieur, en fait, normalement, on est dans la formation qui va nous amener à occuper un emploi.
Oui. Mais comment on fait appel à ce clavardage-là?
Ah, écoutez, c'est très, très simple. On s'en va sur le site OpenAI, donc O-P-E-N-A-I, en un seul mot. Vous n'avez qu'à googler ça et vous vous inscrivez et c'est gratuit.
Et vous l'avez fait, je pense.
J'ai regardé, je ne l'ai pas fait parce qu'à un moment donné, j'hésite à faire certaines choses. Là, je vais le regarder plus attentivement, mais je suis allée sur la page et je n'ai pas poursuivi l'inscription. Mais quand vous arrivez, c'est très facile parce que vous prenez un chemin ou l'autre, c'est-à-dire soit par Google ou encore par Microsoft. Alors, vous choisissez un des deux et vous allez arriver, vous complétez votre inscription. Et après ça, mais vous pouvez poser des questions, genre comme celle que cite Alain Mekena dans Le Devoir. Qui est René Lévesque? Il répond, c'est un homme politique québécois. Il est connu pour avoir fondé et dirigé le Parti québécois. C'est un défenseur ardent de l'indépendance, etc., etc. Alors, il est capable. Une question un peu plus, je dirais, subtile. Est-ce que Jean-Jacques Rousseau croyait à la séparation des pouvoirs? Dans son ouvrage du contrat social, Rousseau défend l'idée, tatati, tatata. Alors, c'est aussi simple et efficace que ça.
Et là, on clavarde avec... C'est pas une personne qui est à l'autre bout.
Non, non, c'est un robot. Un robot. Mais vous savez que plus on va aller vers le développement de l'intelligence artificielle qui est basée sur l'agglomération de données, bien plus les robots vont justement être efficaces pour nous parler.
Oh!
Et sérieusement, là, moi, généralement, j'ai une petite réserve. Là. Je sais que les gens paniquent souvent quand ils voient telle ou telle application qui arrive. Mais ceci, moi, travaillant dans le milieu de l'enseignement supérieur, je peux vous dire que c'est extrêmement inquiétant parce que présentement, on a beaucoup de difficultés à avoir le contrôle. Je parle des enseignants sur les travaux qui sont produits par les étudiants dans le sens où on utilise beaucoup, évidemment, le web pour plagier, malheureusement. Et c'est facile de le faire et je dirais de le faire de façon intelligente. Autrefois, c'était copier-copier, c'était clair, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour déceler ça et même avec ça, c'est très difficile
mais est-ce que vous
d'y
êtes
arriver.
En, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'avec cette fonction de clavardage-là, ça va juste augmenter ce phénomène-là.
Exactement, c'est pour ça qu'on fait un appel et on lance un cri du cœur pour dire si on doit le faire, on doit le faire maintenant. Parce que parfois, on aurait pu agir, mais on laisse aller. C'est la liberté d'expression et quel que soit le moyen, on laisse aller.
OK.
Je vous parle justement encore du milieu de l'enseignement, mais cette fois, je vais aller en France où on a en fait pensé que pour contrer la pénurie d'enseignants, on en trouve aussi là-bas, on pourrait avoir des visio-profs. Alors, le visio-prof, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui a été enregistré sur vidéoconférence.
Là, c'est une vraie personne.
Vraie personne, elle a été enregistrée, la vraie personne.
Oui.
Mais quand on arrive à la classe, c'est une visio que les étudiants ont devant eux. Et là, on parle d'enfants de 10-11 ans. Ils sont en sixième année, entre autres. On relate le cas dans une école. Alors, évidemment que cette nouvelle façon de faire soulève encore des inquiétudes. Du côté des enseignants, on s'inquiète parce qu'on dit on n'a pas la même relation avec l'élève. C'est difficile de prendre en compte leurs difficultés d'apprentissage. Et les parents d'élèves, certains, ça fait leur affaire parce que quand on est en région éloignée, parce que parfois il n'y a pas de prof, donc il vaut peut-être mieux avoir un prof matière qu'un remplaçant qui ne connaît pas comme tel la matière,
bien sûr.
C'est souvent ce qui arrive. Ce n'est pas une question de compétence ou pas, mais c'est quelqu'un qu'on met là puis qu'on dit, ben là, tu vas aller t'occuper de la classe et tu vas la gérer.
Sauf qu'il n'y a pas d'interaction.
Exactement. Non, il n'y a pas d'interaction. Là, on ne parle pas de plateforme.
On fait juste écouter puis voir.
On écoute. Il n'y a pas d'interaction et en plus, gestion de classe. Comment on fait une gestion de classe quand on a été enregistré d'avance et on parle d'enfants de 10 et 11 ans? Alors, du côté des syndicats, donc, on s'inquiète. Bon, évidemment qu'il y a un manque d'attention des élèves. Il y a un problème de gestion de classe, comme je vous l'ai mentionné. Et aussi, ce qui est inquiétant, c'est que ça diminue une espèce de pression à chercher à tout prix quelqu'un pour prendre la place dans la classe d'un enseignant qui serait absent.
Bien sûr.
Là où il y a quand même un bon côté, c'est qu'on dit que dans certaines matières qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire pas des cours qui sont requis, mais qui sont plus au choix, ça pourrait peut-être être une formule qu'on pourrait adapter. Mais même encore, il faudrait faire attention dans ce remplacement de profs dans ces matières qui ne sont pas obligatoires pour pas que ça devienne un cours en continu et non pas pendant, je ne sais pas, 15 semaines ou 20 semaines,
okay,
mais qu'à certains moments, on puisse les enregistrer et ainsi faire partager cela dans différentes écoles,
bien
parce
entendu,
que c'est aussi un problème. Alors voilà, c'est le recrutement d'enseignants, on n'a pas fini d'en parler, et les solutions ne sont pas si faciles que ça.
Bien, merci Francine, ça valait la peine que je me corrige et que je vous donne la parole.
Oh, je vous le fais pas dire, je vous le fais pas dire.
Mathieu vient de me demander si j'étais prêt, mais je suis prêt depuis 10 minutes. Moi.
Mais plus que prêt, en fait.
Je demandais à Francine si elle était prête à te laisser la parole.
Ah oui, d'accord,
Attendez, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait une consultation?
Là, M. Édouard Boucher, c'est la première fois qu'il nous parle, il doit être complètement renversé par ce type d'émission dans laquelle il va participer. En fait, c'est le collègue de Vanessa Anne-Paré, qui est notre porte-parole régulière pour Moi, l'épinière et Motricité Québec. Mais on va parler de deux sujets. On va parler de jeudredi et de volleyball. Et l'expert, c'est Édouard Boucher. Bonjour, Édouard.
Bonjour, Yvan, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Ben oui, ça va super bien.
Ça va super bien. Commençons par les jeudredi qui vont reprendre en janvier prochain.
Oui, exactement. En fait, c'est ça, même au Québec, on a plusieurs activités là, par année, dont les jeudredi. Les jeudredi, c'est quoi? C'est deux jeudis par mois de 18h à 21h, donc c'est en soirée.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on fait? C'est on se réunit entre membres Nemo Québec puis les employés dans nos locaux directement à Québec, puis on joue à des jeux de société. En fait, ce que ça fait, c'est que ça permet de se retrouver là, c'est ça, en petit groupe.
Oui.
Puis ce que ça fait, c'est que ça incite le partage d'expérience. Pour certains, là, notre clientèle étant en fauteuil roulant.
Oui.
Donc, ça permet également de briser l'isolement pour certains, là, parce qu'on sait que c'est plus difficile de se déplacer. Puis également, ça permet de créer des liens là, entre les membres, mais également avec les employés. C'est une activité là, qui peut paraître là, c'est ça, très récréative de prime abord, mais il faut savoir que le jeu de société, en fait, c'est juste un outil d'intégration sociale, un prétexte là, pour se réunir. Puis, c'est ça, on a le droit à de grands partages d'expériences, puis c'est super pertinent. Là, donc, c'est ça, c'est à Québec depuis quelques mois.
Mm-hmm.
On fait ça deux fois par mois, puis on revient avec ça en janvier. Et Montréal également reprend la formule, donc ça va être une activité qui va se faire à Montréal après Noël également.
Excellent. On parle de quelle sorte de jeu de société?
C'est très, très varié. Là. En fait, là, je peux vous donner quelques exemples. La semaine dernière, on a joué au le jeu de société du tricheur, donc l'émission de télévision.
Oui, oui, oui.
Mais on a joué également à d'autres jeux. Là. On peut jouer aux cartes. On a joué également à un jeu qui est plus audio, donc il y a une trame sonore qui suit une histoire de crime. Puis nous, on a des cartes, puis il faut essayer de trouver qui a commis le crime. Donc, un peu comme Clou,
oui, oui,
mais
oui.
Sur une trame audio. Là. Donc, on offre plusieurs choix à nos membres, puis on les laisse choisir le soir même. Là. Des fois, on change aussi, on peut jouer à deux, trois jeux en une soirée, là, mais
oh, wow.
Ça, c'est très varié, ouais.
Et ça a l'air de quoi, la participation?
C'est en fait, là, à chaque rendez-vous, là, on est entre 5 et 10 personnes. Donc, il y a toujours au moins 2 personnes de Mémo Québec. Mm-hmm. Puis, c'est ça, on est entre 5 et 10. Là, ça dépend des soirs. Là. Puis là, depuis l'hiver, là, on est un petit peu moins, je vais vous l'avouer, là, mais on espère là, que ça va recommencer là, après Noël. Mais c'est ça, c'est vraiment très varié. C'est jamais les mêmes personnes non plus qui viennent. Là, donc, on fait des belles rencontres. Là, ouais.
Fantastique. Et moi, j'ai joué beaucoup au volleyball dans toutes sortes de niveaux. Et là, quand j'ai vu l'activité volleyball pour des personnes qui ont des difficultés motrices, ça m'a beaucoup interpellé. Je suis très curieux de savoir comment ça se passe.
Oui, ben moi aussi, là, ça avait été mis sur pause, là, cette activité-là, durant la pandémie, évidemment.
Oui.
Puis je l'ai relancé cet automne. En fait, comment ça fonctionne, c'est que chaque jeudi, on va au gymnase de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, donc l'IRDPQ.
Mm-hmm.
Puis on joue au volleyball à chaque jeudi avec un vrai ballon de volleyball. Deux fois par mois, donc deux jeudis par mois, on rajoute un deuxième terrain pour du volleyball avec un ballon un peu plus léger. Là, on peut penser à un ballon de plage là, un peu en caoutchouc.
Je comprends.
Et ça fait que les personnes qui ont des limitations un peu plus grandes ou qui ne sont pas à l'aise de jouer avec le vrai ballon, mais ils peuvent jouer aussi deux fois par mois. Donc, le jeu devient un peu plus lent. C'est peut-être plus facile selon les types de limitations. Puis on permet aussi là, aux personnes, autant à l'externe qu'à l'interne de l'IRDPQ, de pouvoir jouer. Là. Donc, c'est vraiment une activité qui inclut, là, on essaie de s'adapter là, vraiment au plus de joueurs possible. On a également des fauteuils là, qui sont apprêtés. Donc, moi, qui étant bipède, ben, je peux jouer avec les membres. Là. Donc, je m'assois dans un fauteuil puis je joue avec eux. Là. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. Puis, entre les parties, ben c'est ça, on prend des pauses pour discuter. Donc, c'est vraiment une activité, oui, pour le développement de l'activité physique, mais également pour parler de tout et de rien, mm-hmm. puis d'intégration sociale, là, comme je parlais avec les jeux de rugby.
Je comprends. Donc, les gens sont dans leur... Est-ce que c'est leur propre fauteuil ou c'est des fauteuils adaptés pour une activité physique?
Ben c'est ça. C'est, vu qu'on s'adapte, nous, on peut jouer dans les fauteuils. Les gens peuvent jouer dans leur propre fauteuil. Il y en a qui amènent leur fauteuil de sport qu'ils ont déjà également. Puis nous, c'est ça, les trois fauteuils qu'on peut prêter, c'est des fauteuils de tennis, en fait. Là, mais ça fait très bien pour le volleyball également. Là.
Je comprends.
Puis c'est ça. Fait que là, il y a les règles qui sont un peu différentes également. Je peux peut-être prendre un petit 2 secondes pour vous
oui,
en parler.
Oui, allons-y, oui.
En fait, c'est très semblable au volleyball pour bipède, je vais l'appeler comme ça. Là.
je viens de réaliser que j'étais un bipède.
Exactement, mais nous, on dit le mot bipède là, dans notre communauté, donc voilà. Puis, c'est ça, une des grandes différences, en fait, c'est qu'on a le droit au bon parterre. Donc, le ballon, quand il revient de notre côté, on a le droit à un bon en temps normal.
Oui.
Mais nous, Mémo Québec, c'est ça, on veut s'adapter puis avoir le plus de personnes possible. Donc, on adapte les bons selon les aptitudes de chacun. Donc, pour certains, il va avoir un bon parce qu'ils sont c'est plus facile pour sont plus rapides en fait en fauteuil, tandis que d'autres vont avoir ils n'auront pas de maximum de bons.
Je
donc,
comprends.
Ça, c'est la grande différence. Là. On a le droit à 3 passes comme au volleyball pour bipède,
mm-hmm.
Pour ramener le ballon de l'autre côté. Mais si on renvoie le ballon vers l'équipe adverse, puis qu'il touche au filet et revient de notre côté, ben, les 3 passes retombent à 0. Donc, ça permet là, de faire de plus grands échanges. C'est vraiment ça l'idéal là, qu'on veut, là, c'est de pouvoir faire des échanges.
Okay.
Mais le jeu, là, c'est vraiment de haut calibre quand même. Là. Avec le vrai ballon, là, moi également, je joue au volleyball les lundis soirs,
oui.
Volleyball bipède, puis le calibre est presque pareil. Là. Donc, c'est super intéressant.
Je comprends. Et comment les gens trouvent cet exercice? Je vais vers le volleyball avec le ballon plus léger. Comment les gens trouvent cet exercice-là? Est-ce qu'ils sont heureux de participer à ça?
Ben oui, bien sûr. Là, c'est ça parce que moi, en fait, j'envoie un courriel à tous nos membres dans la région. Puis j'offre les deux avec des dates. Donc, eux peuvent s'inscrire. Puis il y en a justement qui... Ils sont pas certains s'ils veulent jouer avec le vrai ballon ou avec le ballon léger. Mais ce que je propose, c'est de venir pour le ballon léger en premier. Puis au pire, ils changeront parce que les deux en même temps là, à ce moment-là. Puis le ballon léger, là, souvent, les personnes commencent avec ça, mais ils se rendent compte qu'ils sont quand même capables de jouer au vrai ballon.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment là, pour une porte d'entrée. Là, mais c'est vraiment une activité, là, le ballon léger, qui plaît aux personnes qui ont des limitations un peu plus grandes. Là. Puis moi, je me promène de terrain en terrain. Donc, où il y a un besoin, là, moi, je vais jouer avec eux. Là, puis c'est ça. On a le plus de personnes qui jouent possible.
C'est vraiment vraiment fascinant. J'invite les gens qui seraient intéressés à aller voir sur le site de Moelle Épinière et Motricité Québec.
Exactement, oui.
Il y a de l'information, entre autres, sur le volleyball récréatif pour tous, deux jeudis par mois avec ballon léger. Mais comme vous nous disiez, à tous les jeudis, il y a aussi le ballon régulier, c'est ça que je comprends.
C'est ça, exactement. C'est ouvert à tous, là, puis on recommence ça dès janvier.
Dès janvier. Et dès janvier aussi, on recommence avec les Jeux de Redi, qui se passent à vos bureaux. Alors, merci beaucoup, Édouard Boucher. Je vous souhaite à vous et à Vanessa Paré une très belle période des fêtes. Et je vous souhaite dès janvier des activités très valorisantes et très suivies par vos membres.
Bien, merci beaucoup, Yvan. Je vous souhaite un très bon temps des fêtes également.
Merci beaucoup. Francine, on se dirige assez sérieusement vers la période des fêtes.
Certainement. Moi, je pense qu'on est déjà dedans. Je vous ai parlé de mon premier party de Noël.
Oui, c'est vrai. De ma part et celle de Marie, je pense qu'on va se mettre à la recherche d'un sapin dans les prochains jours.
Oui, c'est le temps. C'est le temps.
On a un petit problème, nous, parce que l'endroit où on achetait nos sapins, il semble qu'il n'y en aurait pas cette année, ou je ne sais pas. Alors, il va falloir magasiner un sapin.
Vous allez certainement en trouver un.
Ah oui, je ne suis pas trop énervé pour ça.
Bon.
Et de votre part?
Quoi faire ce week-end?
Effectivement.
Alors, quoi faire ce week-end? Bon, évidemment, il y a le Salon des métiers d'art au Stade olympique. On en a amplement parlé dans les médias. Alors, je vous rappelle que ça c'est ouvert. Ça dure jusqu'au 18 décembre et que c'est au Stade olympique.
Oui, hein, c'est nouveau, ça.
Ben, disons que le Palais des congrès est un peu occupé. Alors, on a déménagé au Stade olympique. Je vous le dis, j'insiste parce que j'ai googlé pour être certaine que c'était au Stade olympique. Et quand on arrivait sur métier d'art, vous savez qu'il y a bon l'indexation, on ne commencera pas à parler de ça, là, c'est un peu technique, des sites Internet, mais il y avait un petit problème parce que ce qui ressortait, c'était l'information concernant le métier d'art de l'an dernier. Alors, si vous regardiez vite, je ne sais pas si ça s'est corrigé.
C'était
là.
Où l'an dernier?
Bien, au Palais des congrès.
Ah, puis oui. Place Bonaventure, ça n'existe plus?
Oh non, ça fait longtemps parce que c'était trop petit pour accueillir le nombre de kiosques qu'il y a. Mais je vais vous parler d'un autre marché de Noël. Moi, la semaine dernière, je suis allée dans un marché de Noël de développement durable à la Maison du développement durable au 50 Sainte-Catherine-Ouest. C'est juste à côté du TNM, en face de la patinoire de l'espace tranquille dont vous avez parlé la semaine dernière. Oui. Mm-hmm. Alors, c'est le marché de Noël vegan cette semaine qui se tient. 10 et 11 décembre, donc c'est juste deux jours de 10h à 18h. Donc, on se rappelle que le vegan, c'est pas de consommation de produits animal. Donc, c'est du végétalisme pur. Et je vous avoue que la semaine dernière, au marché développement durable, j'ai trouvé de jolis petits cadeaux à des prix...
Vous m'avez fait un cadeau?
Ben là, attendez de voir la semaine prochaine. attendez. Ne vous réjouissez pas trop vite, mon cher!
Ah bon?
Bon, ensuite, je vous parle d'une autre activité, cette fois, qui a lieu à la SAT. Vous savez ce que c'est que la SAT?
Non,
excusez-moi. Ah, la Société des arts technologiques.
J'aurais dû savoir.
Ben, je vous le dis comme ça parce que tantôt, on se disait ce qu'on va dire, qu'est-ce que ça veut dire GP. Bon, alors, on a dit non, on ne le dira pas.
Vous savez, moi, la technologie.
La SAT va présenter différentes activités. Donc, une conférence immersive sur l'art et la santé mentale qui est donnée par Florence K.
Oh,
et ça a
la
lieu,
Florence K.
La Florence K, cette artiste que nous connaissons, mais qui est aussi une doctorante en neuropsychologie. Elle est candidate au doctorat.
Effectivement.
Elle
a elle-même eu... elle en a parlé dans le
podcast. Oui, on n'en parle pas vraiment, mais oui, elle en a déjà parlé. Alors, la SAT, c'est située au 1201 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Il faut acheter nos billets, cependant, sur sat.qc.ca. C'est les 11 et 12 décembre de 10h30 à midi Et elle est accompagnée dans cette activité de Émile Leroy. Émile Leroy qui avait participé à la première projection Oasis au Palais des Congrès, justement, qui avait eu lieu pendant la pandémie et au cours de laquelle on pouvait aussi voir les exploits de, de l'astronaute et aussi de Mme Strelitzky au piano.
Oh mon Dieu, l'astronaute québécois. Hein?
Oui, voilà. Okay.
D'ici
voilà.
Les cinq prochaines minutes,
on va le retrouver. Moi, j'ai juste Marc Garneau en tête, mais je sais que ce n'est pas Marc Garneau.
Non, c'est une autre génération.
Alors, voilà ce que j'avais à vous proposer en fin de semaine.
Moi, de mon côté, je vous ai parlé que de l'achat d'un sapin. Nous, c'est tradition chez nous d'avoir un sapin qui sent. David Saint-Jacques,
merci beaucoup.
On savait que la salle des nouvelles allait nous fournir le bon nom. Donc, ça va être la démarche pour le sapin. Alors, oui, cette année, ça va être un peu différent parce qu'on va aller visiter d'autres, des nouveaux endroits qu'on ne connaît pas. Alors, ça va être intéressant. On n'est pas du genre à aller dans le bois pour couper notre sapin. Dommage.
Mais pourtant, c'est une belle activité.
Oui, mais je suis plutôt citadin. Hein, alors.
Ouais, il faut faire attention à la déforestation. Je suis d'accord avec vous.
Non, il faut faire attention à soi-même. Une hache et moi, c'est pas tellement, ça va pas tellement bien ensemble.
Mais sérieusement, les points de vente des sapins, est-ce que c'est moi ou on en voit de moins en moins?
Oh, je ne saurais le dire. Okay. Mais oui, de visu, oui. Moi, j'allais à un endroit au Hall d'Anjou, puis on connaissait notre vendeur, puis il nous décrivait les différents sapins qu'on pouvait acheter, tout ça. Là, on peut être allé du côté du marché Jean Talon.
À Trois-Terre, en tout cas, vous savez, ça occupe un espace important du marché à chaque année.
Ah,
et oui, ils sont très actifs.
Alors ça, c'est une des choses qu'on pensait faire en fin de semaine. Une chose pour les gens qui préfèrent le ballet, évidemment, c'est Casse-Noisette, qui commence ce soir du 9 au 30 décembre à la Place des Arts. Moi, ça fait un petit bout de temps que mes enfants sont un peu plus vieux. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé voir. Mais je sais qu'à certains moments donnés, on rafraîchit la production. Alors, puis avec ce qui s'est passé, la pandémie, tout ça, je pense que ça vaudrait la peine d'aller faire un tour. C'est comme, ça fait partie de l'esprit de Noël.
Ça fait partie de l'esprit de Noël, le Noël classique, oui.
Oui. Et évidemment, du côté sportif, ben il y a la Coupe du monde hein, qui se poursuit. On est présentement en quart de finale. Je peux vous dire, parce que je jette un coup d'œil une fois de temps en temps, que Croatie-Brésil, présentement, ils sont à la demi. C'est 0-0 entre les deux pays. Et c'est là qu'on commence à rentrer là, dans les choses sérieuses. Puis là, si j'avais un joueur canadien devant moi, il ferait des gros yeux. Là. Mais... on s'approche de la finale cet après-midi, Pays-Bas, Argentine avec Lionel Messi. Demain, faut pas me déranger, demain après-midi à 14h, c'est Angleterre-France. Alors ça, je réponds pas à qui que ce soit pour quoi que ce soit. Le matin, ça va être Maroc contre Portugal. Portugal a joué un excellent match cette semaine. Donc ça, c'est les matchs de quart de finale. Les demi-finales vont avoir lieu mardi déjà, le 13 et le 14. Et je me garde de vous dire quand est-ce que c'est les finales, parce qu'on va avoir une émission entre-temps.
Il nous en reste une dernière, oui. Yvan, la semaine prochaine, donc le 16 décembre.
Oui, oui.
Ce sera notre émission de Noël. Et on vous attend. Alors aujourd'hui, je vous remercie d'avoir été là en présentiel.
Merci, mais ça a été une belle émission aujourd'hui.
Bon, alors vous êtes content, tant mieux.
Vraiment,
merci à Mathieu aussi, qui est toujours là, même pour nous souffler les bonnes réponses quand on les a pas.
Ou nous ramener dans le bon ordre quand on se trompe de chronique.
Merci à nos chers éditeurs de votre patience, finalement, devant nos petites bévues de temps en temps.
Oui.
Et comme à l'habitude, Yvan, je vous laisse le mot de la fin.
Un chapeau spécial à Mme Veilleux. On a eu une belle rencontre avec Mme Veilleux et j'espère que ça va donner le goût à des gens d'essayer des nouvelles choses. Et nous, on se reparle dans une semaine, vendredi.
Vous pouvez rejoindre l'équipe de